Claire Millot, vous êtes membre de l'association Salam. Je vous contacte aujourd'hui pour parler de la situation des migrants dans cette période de crise de Covid-19. Alors, comment ça se passe de votre côté ?
Bah écoutez, c'est une situation qui est quand même très très affreuse d'un point de vue humanitaire, parce qu'on a des consignes depuis une grosse semaine de rester un peu isolé, de surtout pas se regrouper à plus de 100 personnes. Et on a des camps de migrants où ils sont plusieurs centaines, en particulier à Grande-Synthe, là, sur le camp de la Linière, où ils sont sous des hangars. Il y a 400 personnes au moins qui se trouvent regroupées, et ça n'a pas l'air du tout de gêner l'État. Donc c'est terrible pour eux, c'est terrible pour la contamination que ça peut aussi avoir pour la société, et dans des conditions d'hygiène qui sont absolument déplorables. Il n'y a pas à Grande-Synthe, sur le Puy-Touc, où il y a des gens qui sont disséminés, il y a un point d'eau, et à la Linière, où les gens sont regroupés sous des hangars, il y a une borne à incendie qu'ils ont bricolée pour arriver à faire sortir de l'eau, mais il n'y a pas un robinet correct. Et depuis quelques jours, l'État est très fier d'annoncer, la sous-préfecture est très fière d'annoncer, qu'elle amène le matin une citerne d'eau avec du savon. Mais il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'accès aux douches. C'est vraiment des conditions lamentables.
On peut rappeler peut-être les nationalités en majorité sur Calais, Grande-Synthe.
Oui, alors sur Grande-Synthe, c'est très facile parce que c'est très majoritairement kurde. Surtout des Kurdes irakiens, des Kurdes iraniens, un petit peu de Syriens, et puis des Afghans un peu aussi. Et par contre, à Calais, c'est beaucoup plus varié. Il y a des Africains, des Éthiopiens, des Soudanais, des Érythréens. Et puis, il y a aussi des Iraniens, très peu d'Irakiens, parce qu'en général, ils sont plus à Grande-Synthe. Des Afghans, assez nombreux aussi.
Vous, votre association et d'autres, hein, comment vous faites pour gérer tout ça ? Vous donniez des repas ? Évidemment, j'imagine qu'il y a de moins en moins de bénévoles, puisque il y a un confinement. Comment ça se passe ? Comment ça s'organise ?
Oui, c'est extrêmement difficile. La situation à Calais, ils arrivent à tenir le coup. Ils arrivent à être suffisamment nombreux, parce que depuis 2017, juste quand il y a eu une reprise un peu de la présence migratoire à la suite du démantèlement de la Grande Jungle en octobre 2016, donc depuis début 2017, Salam, qui n'avait plus de local, s'était consacré à la préparation et à la distribution quotidienne, vraiment quotidienne, hein, 7 jours sur 7, du petit déjeuner. Et donc il n'y a pas beaucoup de travail de préparation. Il faut couper le pain et puis regrouper ce qu'on peut avoir récupéré en don, les fruits, des fruits, du fromage, des biscuits, des chips, tout ce qu'on peut récupérer, le mettre en caisse, le répartir, faire un peu attention au stock pour que pas tout distribuer le même jour. Mais il y a peu de travail de préparation, c'est surtout de la distribution et il n'y a pas besoin d'être très très nombreux. Par contre, à Grande-Synthe, on fait le repas complet, repas chaud et dessert 4 jours par semaine, le midi, les lundis, mardis, jeudi et samedi. Et là, on a arrêté la distribution hier matin parce qu'on manque de bénévoles. Trop de bénévoles sont plus disponibles, soit parce que eux-mêmes se sentent pas bien de venir alors que le confinement était décidé par les autorités, soit, et c'est mon cas, je l'avoue, par la pression familiale. Les enfants qui disent « t'es maman, t'es vieille, tu vois pas, t'es une personne fragile, tu dois pas y aller », soit le contraire, les jeunes par les parents, ceux qui sont encore chez leurs parents, « non, tu ne sortiras pas, c'est trop dangereux et tu vas nous ramener le virus ». Et puis, tous ceux qui ont des proches, bon, moi, je sais que j'ai mon beau-père qui est extrêmement, il a 92 ans, donc il est quand même fait partie des personnes fragiles, donc mon mari me dit, fais attention à mon papa, les gens qui ont des amis très proches qui ont un cancer grave, enfin, on a tous plus ou moins des raisons, des pressions, et on n'est pas sûr tous les matins d'avoir assez de gens pour préparer à manger, pour distribuer. Donc, hier matin, on a décidé d'arrêter.
Alors, comment ça va se passer, du coup, pour eux ? Est-ce que j'imagine que les migrants ont conscience de ce qui est en train de se passer ? Comment ils réagissent ? Est-ce qu'il y a une aide médicale, quand même, qui est apportée ? Comment vous fonctionnez ?
Alors, l'aide médicale, bon, là, il y a deux questions dans ce que vous dites. L'aide médicale, pour le moment, elle est aussi fragilisée, parce que les équipes Médecins du Monde et Croix-Rouge, qui interviennent très, très régulièrement, ont stoppé cette semaine pour essayer de se réorganiser. C'est un peu pareil aussi, Médecins du Monde. Dans la Croix-Rouge, il y a quelques salariés. Médecins du Monde, sur nos centres, ce sont des bénévoles qui, en général, sont retraités. Les médecins et infirmières sont tous des médecins et infirmières retraités, donc qui font partie des gens qui devraient rester à la maison. Ils ont passé l'âge auquel ils devraient rester à la maison. Donc, pour le moment, c'est arrêté. Et pour les repas, on a fait le maximum pour faire bouger l'État. Parce que c'est quand même vraiment pas normal que, alors qu'on nous dit depuis des jours, pas de rassemblement de plus de 100 personnes, on laisse des gens à 400 sous des hangars sans les moindres minimums de conditions hygiéniques possibles. D'accès à l'hygiène, au sanitaire. Enfin, donc là, hier soir, j'ai mis au propre un communiqué de presse qu'on avait préparé hier matin, qui est parti à la presse, bien sûr, ce qui est important parce que vous êtes entendu par beaucoup de gens quand même, et puis à la préfecture, à la sous-préfecture, de manière à leur signaler que les gens allaient se trouver sans rien à manger. Alors j'ai su ce matin que le Secours Populaire allait faire des interventions, mais pas quotidiennes, et n'ont pas les moyens pour donner des choses à manger. Donc, c'est déjà bien. Et ils ont été demandés par la préfecture, donc c'est une bonne chose. Mais c'est pas suffisant. Il faut pas que les gens restent là. Il faut pas que les gens restent là. Le préfet, je crois que je l'ai déjà dit, il est tout fier d'avoir mis une citerne d'eau à un endroit avec du savon. C'est pas avec une citerne d'eau qu'on lutte contre un microbe quand on est 400. Il faut que les gens soient mis à l'abri. Ça, j'arrête pas de répéter depuis hier matin que on est dans une région pleine d'écoles, que les écoles sont fermées, qu'on peut réquisitionner les gymnases, qu'on peut réquisitionner les internats et mettre des gens dans des structures où ils seront beaucoup moins nombreux, quelques dizaines, où ils seront pas les uns sur les autres et où ils pourront se laver.
J'imagine aussi qu'il n'y a pas d'accès au téléphone en cas d'urgence pour appeler le 15 ou alors, comment ça se passe?
Très très massivement, ils ont des téléphones portables. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de cabine téléphonique. Mais actuellement, les associations qui apportaient très régulièrement, quotidiennement, des points de recharge de portables ont aussi arrêté leurs activités.
Donc, vous avez envoyé une lettre ouverte, hein, c'est bien ça. Hein.
Voilà, oui, un communiqué de presse qu'on a envoyé très massivement à la presse et au sous-préfet et au préfet pour... alerter sur le fait que c'est pas du tout normal. C'est une situation absolument anormale.
Alors donc nous, on a reçu un communiqué de presse justement qui émane de la préfecture du Nord-Pas-de-Calais avec des mesures de protection, donc population migrante et de soutien aux opérateurs et associations. Donc vous en pensez quoi? Vous avez pris connaissance de ce communiqué de presse?
Je l'ai lu rapidement et vous y voyez effectivement qu'ils ont mis une citerne d'eau dont ils sont très fiers. Mais ça ne résout absolument pas la masse. Ils ne disent absolument pas qu'ils vont faire quelque chose pour qu'il n'y ait plus 400 personnes au même endroit et ils ne disent absolument pas qu'ils vont organiser un accès à l'hygiène.
Alors, donc, apparemment, vous devriez avoir rendez-vous prochainement, demain peut-être.
Alors, ça, c'est à Calais. À Calais, il y a régulièrement, depuis 2017, que l'État a condamné, a obligé au niveau local à installer des douches, des toilettes, des points d'eau. Accessibles alors qu'ils ne sont pas accessibles 24 heures sur 24. Ça, c'est aussi un souci hein, quand on est en période comme ça de danger, de contamination par un virus vraiment méchant. L'eau n'est pas présente à Calais. Il y a des points où la vie active amène l'eau en même temps que les repas 2 heures par jour. Et donc, il faudrait que ce soit vraiment 24 heures sur 24. Je veux dire, si on va faire pipi la nuit, on doit pouvoir se laver les mains. Et c'est pas le cas. Donc, à Calais, ils ont obtenu que le tribunal administratif, le Conseil d'État même, puisqu'il a fallu aller en appel, impose des réunions régulières entre les autorités et les associations. Donc, ça se fait. Souvent, c'est un peu un dialogue de sourds. Mais ça existe et il va y en avoir une jeudi. Par contre, à Grande-Synthe, ça n'existe pas.
Comment on sait bien que c'est une période de confinement, bien évidemment. Comment ça se passe aussi avec la population environnante? Est-ce que ça bouge un peu? Est-ce que c'est difficile?
Pour le moment, on n'a pas entendu parler du tout de réaction négative du public environnant. Pas du tout, non.
Eh ben, je vous remercie beaucoup, Claire Mio, donc d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et puis, on vous souhaite bon courage. Hein, et si, merci. Par bonheur, certains auditrices ou auditeurs écoutent et qu'ils ont envie de vous donner un coup de main, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut contacter, une adresse mail?
Ils peuvent toujours m'appeler et après je les aiguillerai éventuellement sur Calais. Mais ils peuvent toujours m'appeler au 06 34 62 68 71. Je suis plus présente, davantage présente sur le camp de Grande-Synthe, mais j'ai les contacts sur Calais, je suis quotidiennement ce qui se passe à Calais, donc je peux aussi aiguiller les gens dans cette direction.
Dernière question qui me vient à l'esprit aussi, parce que maintenant ils ont mis en place aussi, ce qui est normal, les dérogations de déplacement. Est-ce que vous, avec vos associations, vous avez un statut particulier pour pouvoir éventuellement se rendre sur place
ou, pas de statut particulier, mais sur cette feuille, on s'apprêtait à demander des laissez-passer à la sous-préfecture, qu'on a déjà eu dans d'autres contextes. On a déjà eu des fois où on avait interdiction d'accéder à certains secteurs. Et donc, on s'apprêtait à faire la demande. Et en fait, ce document qui est partout, il était dans la Voie du Nord ce matin en grand, la ligne 4, il suffit de la cocher, c'est marqué aide aux personnes en difficulté ou aux personnes fragiles, je ne sais plus. D'accord. Et donc, si on coche la ligne 4, ça nous autorise. Et moi, je vais en plus en faire pour les bénévoles de l'association avec le tampon de l'association. Ça fait plus sérieux. Mais même sans tampon, c'est un papier. Le défaut de ce papier, c'est qu'il faut le remplir à chaque sortie.
Ouais.
Donc, si on va une fois acheter du pain, le pain et le fromage, c'est alimentaire, c'est la même croix pour le même jour. Mais si on va une fois voir son grand-père, une fois acheter du pain et une fois aider sur un camp, il faut remplir 3 fois un papier différent. Donc c'est un peu lourd. Enfin, c'est déjà très bien que nos activités soient dans la ligne 4.
Merci
ça
beaucoup.
Ça se trouve sur le site du ministère de l'Intérieur, en plus de la presse locale éventuellement, comme je viens de dire.